Bonjour.
Donc bonsoir à tous. Bonsoir. Donc ce soir on accueille Laurent Bellandras, qui est un spécialiste de la musique française. Donc il a été animateur de radio, programmateur de salles au Sentier des Halles à Paris, directeur artistique chez Universal, où il a pu notamment travailler avec Olivia Ruiz pour son premier album avec Juliette. Il a travaillé avec M, Amadou et Mariam, mais aussi Goran Bregovic ou Dizzy La Peste. Donc déjà, un panorama assez large de la musique française. Je crois, Laurent, que tu as aussi fait écrire à Marie Nimier des textes pour les chanteurs, notamment pour
oui.
Enzo.
En fait, mon vrai métier aujourd'hui, c'est éditeur musical. Donc, c'est-à-dire que je travaille avec des auteurs, des compositeurs de chansons. Et j'aime bien travailler avec des écrivains. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire travailler des écrivains comme Jean Rouault, comme Vincent Ravalet, comme Marie Nimier. Marie Nimier, c'est un peu particulier parce que c'est vraiment quelqu'un avec qui je travaille beaucoup, beaucoup. Et elle, en tant que parolière, exclusivement. Je ne m'occupe pas d'elle en tant qu'écrivain, mais en tant que parolière, oui, beaucoup.
Donc voilà, tu as aussi créé le Salon du Livre et de la Chanson à Randan,
ah oui.
Dans le Puy-de-Dôme, c'est ça?
Oui.
Et tu as aussi créé les éditions Bellandras, de ton nom, avec là aussi les textes de Olivia Ruiz, Caroline Loeb, Anna Karina, Vipers Circus. Et tu avais aussi créé la collection Musique chez Textuel, donc Textuel qui fête ses 20 ans cette semaine et que nous sommes heureux de célébrer dans la librairie, avec des rencontres toute la semaine, dont celle-ci. Et donc chez Textuel, où tu as pu éditer les textes des livres sur Zazie, Juliette, Arthur H., Lassa. Tu as aussi écrit plusieurs livres, dont les éditions complètes des manuscrits de Nougaro et de Gainsbourg, chez Textuel en 2006, pour lequel tu as été récompensé par le prix Charles Cros, il me semble. Tu as aussi écrit un livre sur Coluche, toujours chez Textuel. Un pamphlet, me semble-t-il, assez sévère sur Pascal Sevran, aux éditions Tournon en 2007. Mouloudji, ça c'était aux éditions Sassem. Je crois que
Carpentier.
Et tu as également préfacé chez Textuel Gainsbourg, Le génie sinon rien, qui n'est pas le livre qui est au centre de la rencontre de ce soir, mais qui est également présent ici. Et donc ce livre, La Marseillaise de Serge Gainsbourg, Anatomie d'un scandale, qui a été publié en janvier après les attentats.
Pas du tout, non, après, il vient de sortir. Là.
Il vient de sortir, oui, pardon. Mmh. Tu l'as écrit après les attentats de Charlie Hebdo, je pense. Il y avait un lien, peut-être, qui...
Ça a été le déclencheur, oui, oui, oui.
Voilà. Mmh. Et donc, tu vas nous parler de ce livre ce soir.
Oui, juste avant, je fais une petite parenthèse sur les éditions textuelles, puisque Mola a choisi de célébrer les éditions textuelles. C'est un petit éditeur indépendant avec une directrice qui s'appelle Marianne Terry. C'est important de soutenir cet éditeur particulièrement. D'abord déjà parce que c'est une maison d'édition exclusivement composée de femmes, ce qui est très rare, et qui travaille véritablement avec l'amour de ce métier. J'ai travaillé pour plusieurs éditeurs et chez Textuel, il y a un goût pour l'objet, pour le choix du papier, pour la typographie. Si vous connaissez pas, moi je connais essentiellement, je travaille avec Textuel essentiellement sur des livres musicaux, mais il y a beaucoup de livres de photos sur l'architecture, sur la danse. C'est un éditeur que je vous encourage à découvrir. Le travail est de qualité, vraiment fabuleux. Voilà, j'ai fait ma petite parenthèse.
Donc ce livre, je sais pas ce que... Alors, moi, c'est vrai que je l'ai lu là récemment, dans un contexte où parler de la Marseillaise. Finalement, je m'attendais à ce que tu parles directement du scandale et de Gainsbourg et la Marseillaise. Et finalement, tu reviens aussi très largement sur l'histoire de cette chanson et le chant dans le premier chapitre, au moins, où tu reposes un peu les prémices et la création de ce chant.
En fait, pour revenir à la source, il y a une dizaine d'années, j'ai eu la chance vraiment de pouvoir, grâce à Charlotte Gainsbourg, avoir accès aux archives de son père, ce qui n'avait jamais été fait, et dans l'optique au départ de publier un livre qui, j'espère, est aussi disponible à la librairie, qui est un recueil des manuscrits de Serge Gainsbourg. Et en allant dans l'hôtel particulier de Gainsbourg, rue de Verneuil, à Paris, on a trouvé parmi les manuscrits une pochette sur la Marseillaise. C'était la seule chose classée dans ces documents. C'est-à-dire que tout le reste, tout ce qu'on a retrouvé, c'était vraisemblablement pas des choses qu'il avait conservées particulièrement. On va dire plutôt des choses qu'il n'avait pas jetées. Voilà. Et en revanche, sur la Marseillaise, le dossier était constitué avec des lettres d'encouragement, des lettres d'insultes, des articles de journaux, des télégrammes, des dessins. Et ça fait 10 ans que justement Marianne Théry me demande de me pencher sur ce dossier, sur le dossier qu'il avait conservé. Et je ne savais pas très bien par quel bout prendre les choses, par quel angle attaquer tout ça. Et c'est vrai que les attentats de janvier ont été déclencheurs dans le sens où les actes antisémites jusqu'à présent en France, je fais hélas partie de ceux qui avaient tendance à les considérer comme des faits divers et pas forcément pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des actes antisémites. Et après les attentats, je me suis replongé dans ce dossier de Gainsbourg où je me suis rendu compte que s'il avait mis ça à part, s'il avait conservé ça, c'était parce que il a véritablement vécu une agression raciste et antisémite à une période où on aurait pu croire que la France avait réglé ses comptes avec tout ça. On est donc en 79. Et en fait, c'est le début de tout un tas d'événements vis-à-vis desquels on a manqué de réaction et qu'on paye cher aujourd'hui. Et ça coïncide, cette année 79, avec les premiers attentats en France, l'attentat de la rue Copernic. Ça coïncide aussi avec la révolution islamique iranienne. Et vu sous l'angle de 2015, cette époque aujourd'hui résonne de façon assez dramatique. Donc ces événements qui ont 35 ans ont un reflet aujourd'hui qui évidemment est tragiquement d'actualité. C'est pas juste une anecdote dans la vie d'un artiste en France. C'est véritablement le début d'une parole libérée, raciste, qui divise la France, qui divise les Français, et qui s'est imposée à partir de ce moment-là et qui continue aujourd'hui d'être propagée à grande échelle. On a vraiment, enfin, là dans ce livre, j'ai tenu absolument à ce que soient reproduits les articles de journaux de l'époque. Et je vous promets qu'on a vraiment parfois la sensation que c'est pas possible que ces choses-là aient été écrites par, en grande majorité, de brillants intellectuels, donc plutôt très bien écrits, plutôt de haut niveau, y compris dans l'horreur des mots choisis, y compris dans la façon d'agresser un artiste en lui reprochant au final ce qui est l'essence même du créateur, c'est-à-dire provoquer chez l'auditeur ou le spectateur une réaction. Et la provocation chez Gainsbourg, c'est évidemment une seconde nature. En aucun cas, on peut imaginer qu'un homme comme Gainsbourg, tout provocateur qu'il soit, ait eu l'intention de blasphémer de quelque façon que ce soit l'hymne national en le chantant en reggae, en réécrivant sa musique et en agençant un poil différemment ses paroles. Ce qu'il va lui-même expliquer et justifier en disant qu'il a voulu redonner à la Marseillaise son sens originel, c'est-à-dire une chanson révolutionnaire sur une musique révolutionnaire, puisqu'on est au tout début du reggae à partir de ce moment-là. Même si effectivement, en remontant l'histoire de la Marseillaise, je me suis rendu compte d'une chose assez édifiante, c'est-à-dire que notre hymne national est tout sauf un hymne révolutionnaire. Et Rouget de Lille l'auteur et compositeur de cette chanson, qui a été créée à Strasbourg en 1792, est royaliste. Alors, c'est vrai qu'il est plutôt favorable à une monarchie constitutionnelle. Mais en fait, au départ, cette chanson, elle est écrite pour des soldats qui sont envoyés par Louis XVI, qui est devenu roi des Français, qui sont envoyés pour aller combattre l'Autriche, qui est quand même le pays de la reine de France à ce moment-là. Et c'est un chant pour stimuler les combattants. En aucun cas, Rouget de Lisle a une quelconque fascination pour la Révolution française. Et d'ailleurs, très rapidement, il va se retrouver emprisonné. Il manquera de peu d'être guillotiné. Et le destin, le parcours de cette chanson, de la Marseillaise, est complètement invraisemblable, puisque vous savez qu'à partir de la Révolution française, et ce pendant plus de 100 ans, il y a une succession de régimes jusqu'au retour de la République, qui font que régulièrement, cette chanson va connaître à la fois le destin fabuleux qui est de se voir couronner plusieurs fois hymne national, et en même temps, selon les changements de régime, va être interdite. Donc, il y a véritablement, dans le parcours de la Marseillaise, une histoire complètement rocambolesque, à la base. Et c'est vrai que Gainsbourg, à partir du moment où il décide de reprendre la Marseillaise en version reggae, au tout début, le disque sort au début de l'année 79, on va dire que tout se passe plutôt très bien. Il y a plutôt un bon accueil. Serge Gainsbourg a plus de 50 ans et c'est même la première fois qu'il a un véritable succès discographique. Il est disque d'or en quelques mois. Alors, évidemment, quelques journalistes lui demandent si c'est une irrévérence de sa part, si c'est un peu de provocation de sa part, ce à quoi il acquiesce volontiers. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Et en fait, ce qui va déclencher la Lali, ça va être un article publié en juin 79 dans le Figaro Magazine, signé Michel Droit. Michel Droit, qui est un écrivain qui, à ce moment-là, est en passe de devenir académicien, qui, pour fait d'armes, a été dans sa jeunesse résistant aux côtés de De Gaulle et qui a une vieillesse, on va dire, un peu compliquée. Il est en réaction face à tout ce qui compose la société de cette fin des années 70. Il se targue de vouloir critiquer la version de Serge Gainsbourg en utilisant un argument très discutable et que Jean-Paul Enthoven va qualifier de racisme camouflé, en disant, voilà, Serge Gainsbourg a commis un blasphème. C'est pas très étonnant. Alors, je le dis avec mes mots à moi, vous aurez la possibilité de relire l'article tel qu'il est écrit par Michel Droit, qui s'exprime beaucoup mieux que moi, en disant, c'est pas très étonnant de la part d'un juif de cracher sur l'hymne national et de vouloir se faire de l'argent avec. Et il faut pas s'étonner que ça provoque de l'antisémitisme. Et là, d'un seul coup, l'article de Michel Droit lâche une bombe dans la France de 1979.
Ouais, en sachant que cette France, c'est celle de Valéry Giscard d'Estaing qui a été élu, qui est le plus jeune président élu à l'époque, qui fait passer quelques réformes sociétales comme le droit à l'avortement, la pilule, mais qui se retrouve quand même coincé dans une France qui n'a pas encore évolué autant que lui, peut-être l'a été.
C'est-à-dire qu'on voit se dessiner deux franges à ce moment-là. Giscard d'Estaing qui est centriste, à partir du moment où il y a la scission avec Jacques Chirac, son premier ministre, qui fonde le RPR, il y a également c'est le début de la nouvelle droite, ce qu'on appelle la nouvelle droite. Et cette nouvelle droite va être composée, encore une fois, d'hommes extrêmement brillants, de très grands intellectuels, mais qui vont commencer à diviser la France en fonction d'une gestion, on va dire, extrêmement maladroite de l'immigration. Ça va être un peu le fer de lance, le début de ce qu'on vit aujourd'hui tous les jours, du discours politique qu'on nous assène quotidiennement. En favorisant l'immigration, Giscard d'Estaing a oublié une chose, c'est l'accueil. C'est-à-dire que la France est un pays colonisateur, ce n'est pas un pays colonisé, où quand il l'est, généralement, les gens ne restent pas très longtemps. Mais contrairement au Canada, contrairement aux États-Unis, où dès qu'un immigré rentre sur le terrain, on l'accueille, on lui apprend la langue, on lui apprend l'hymne national, il y a un véritable suivi. En France, il n'y a pas du tout de politique d'accueil. Donc ce qui fait qu'effectivement, il y a une partie de cette population immigrée qui arrive au moment où la France connaît un âge d'or économique, qui se retrouve dans des espèces de préfabriqués, de bidonvilles, et dont on ne sait plus quoi faire à partir du moment où il y a de vrais problèmes de chômage qui commencent à apparaître, à poindre, et avec une population qui ne s'est pas du tout intégrée. Et en plus, avec une politique de regroupement familial qui fait que, de toute façon, on commence à vivre véritablement en France des communautés. Mais cette politique-là, Gainsbourg en devient le symbole, alors que l'histoire que je raconte aussi de la famille Gainsbourg est évidemment pas du tout liée à ça. C'est une famille de migrants, certes, qui quitte la révolution soviétique, qui ils se réfugient en France. Et on est à ce moment-là, à la fin des années 10, au début des années 20, où Paris est véritablement la capitale du monde entier. Tous les grands artistes sont pour la plupart des réfugiés politiques. Le Montparnasse des années 20, c'est quelque chose qui fait l'histoire de France encore aujourd'hui à tous les niveaux, et que ce soit musical, que ce soit en peinture, que ce soit vraiment, Paris est le centre du monde, c'est le début de la négritude. On a vraiment une fascination pour tout ce qui vient d'ailleurs, et tous les artistes qui atterrissent dans ce Paris-là sont, on va dire, presque plus français que les Français. Ils adoptent vraiment la laïcité, ils adoptent la culture, ils adoptent les coutumes, à tel point que quand va arriver la Seconde Guerre mondiale et l'occupation, la première chose que fait le père de Serge Gainsbourg, à la demande du gouvernement de Vichy, qui souhaite recenser les Juifs, il va inscrire sa famille. Alors que sa femme, qui sent le danger poindre, lui déconseille de faire ça en disant « Non, attention, c'est un piège ». Lui, il y va bon enfant. Effectivement, il se retrouve quelques mois plus tard à devoir fuir en zone libre. Toute la famille Gainsbourg échappe à des rafles. Alors, avec beaucoup de chance, ils y échappent constamment. Et on apprendra, il y a quelques années, grâce à deux journalistes du Nouvel Observateur, qu'ils ont, à ce moment-là, été déchus de la nationalité française par le gouvernement de Vichy. Décision qui sera annulée à la libération. Et finalement, la famille ne sera jamais au courant, puisqu'ils y ont toujours échappé. Mais ils ont quand même vécu ça. C'est-à-dire que Gainsbourg est un enfant qui a un adolescent qui, à 13-14 ans, portait l'étoile jaune et qui, véritablement, jamais se serait permis de cracher sur le drapeau et sur l'hymne national de quelque façon que ce soit.
Et puis, il y a surtout cette attaque de Michel Droit, en l'occurrence, qui, en plus de l'accuser de blasphémer l'hymne national et de l'utiliser à des fins mercantiles, puisque ce qu'il lui reproche beaucoup, c'est de gagner de l'argent avec la chanson. Enfin, dans une méconnaissance de ce que sont les droits d'auteur, quand même assez dingue à cette époque. Et surtout, je pense que Michel Droit sait très bien de quoi il parlait, et qu'en fait, il se trompe pas et qu'il choisit les mots qu'il utilise, parce que c'est quelqu'un de plutôt brillant dans ce qu'il écrit. Et il l'accuse de provoquer l'antisémitisme, en fait. Et donc, cet homme qui, à l'époque, a une cinquantaine d'années, qui a fui les nazis, qui a échappé à toutes ces rafles, se retrouve accusé lui-même non seulement d'être juif et de blasphémer l'hymne national français, mais en plus de provoquer l'antisémitisme. Et du coup, c'est un retournement total de l'accusation.
Et oui,
qui, je pense, est terriblement choquant.
Et puis, il faut recontextualiser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça paraît presque finalement pas si grave que ça de dire d'un chanteur qu'il est juif. À ce moment-là, d'abord, Gainsbourg a jamais, enfin, dans son parcours musical, artistique, a jamais revendiqué quelque judéité que ce soit. C'est un parfait laïc. Non seulement ça, mais en plus, à ce moment-là, l'obédience supposée de quelque artiste que ce soit est jamais mise en avant. Aujourd'hui, on parle de religion du matin au soir. Donc on a l'impression que c'est finalement pas si grave que ça, sauf que à cette époque, en 79, personne ne songerait à imaginer une seconde d'accoler le mot juif au nom de Gainsbourg. Donc
En plus, un nom qu'il avait changé en plus pour le
un nom qu'il
franciser,
a francisé, bien
ouais,
sûr.
c'était.
Enfin, même si Serge n'est pas son vrai
Oui,
prénom,
tout à fait.
les parents
Lucien.
de Gainsbourg ont appelé leurs enfants Lucien, Liliane et Jacqueline. Bon, il y a plus russe ou plus juif comme prénom. Donc, on n'est pas du tout à ce moment-là dans une France qui. C'est au même moment, d'ailleurs, j'en parle également puisqu'il est aussi victime d'une cabale. Coluche se fait virer d'Europe 1 pour des blagues malencontreuses comme il avait l'habitude de le faire. Et. Dans les pages du Figaro Magazine, dans les réactions des lecteurs, il y a un lecteur qui dit très justement, ça viendrait à personne de demander si Coluche s'est fait baptiser ou pas. On s'en fiche complètement. C'est même pas le sujet. Là, du fait que d'un seul coup, Gainsbourg se voit fiché en tant que juif en 1979, effectivement, ça va déclencher une vague d'antisémitisme à son égard d'une violence inouïe.
Oui, parce que ça finit quand même avec cet enregistrement où lors d'un concert, un régiment de parachutistes, ou en tout cas d'anciens parachutistes, je pense qu'il y avait beaucoup d'anciens vu la photo, ils devaient plus sauter beaucoup, les gens qui sont sur la photo qui est présentée, se regroupent dans la salle de concert à Strasbourg en voulant en découdre, en fait, pour empêcher Gainsbourg de pouvoir chanter. Et finalement, il retourne là aussi, lui, la
Ça
situation
se termine
en...
pas là-dessus. Hein.
Non,
C'est
mais...
un peu le point d'orgue, c'est la scène de laquelle je
Voilà,
pars, parce que
après ça continue,
c'est
mais...
celle que tout le monde connaît. On a tous en tête les images des paras qui arrivent dans le hall Rhénus, qui empêchent Gainsbourg, qui font peur en fait aux musiciens, qui fuient, des Jamaïcains qui comprennent rien à ce qui se passe, qui eux, pour le coup, sont pas francophones, qui sont victimes d'alertes à la bombe, de menaces. Mais ça, on est en janvier 80. C'est-à-dire que la vague de haine vis-à-vis de Gainsbourg a démarré en juin 79. Il se passe donc 6 mois où la tension monte. Il y a déjà, à un moment donné, à Marseille, Gainsbourg est invité pour venir dédicacer son album aux armes, etc., l'album Reggae. Et déjà, à ce moment-là, il y a l'Union nationale des parachutistes qui menace le consulat de Jamaïque qui doit accueillir Gainsbourg à Marseille en le prévenant que si jamais Serge Gainsbourg vient signer son disque, il y aura. Alors, ils disent pas des attentats, mais ils utilisent un terme
Oui.
qui laisse entendre que ça se passera pas très bien. Et le consul de Jamaïque a peur, annule la venue de Gainsbourg à Marseille, et la presse continue. C'est-à-dire que, en fait, on parle beaucoup de l'article du Figaro Magazine de Michel Leroy, mais Michel Leroy va s'exprimer dans tous les supports possibles et imaginables pendant un an. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'il soit élu académicien, où là, la réserve fait qu'il va se calmer, mais d'autres prendront le relais, pendant un an, Michel Leroy ne cesse de réitérer ses propos et de façon de plus en plus violente. Et hélas, ça a prise. Il n'y a curieusement aucune réaction politique, aucune réaction des grands intellectuels. Le seul qui vient au secours, hein, je ne sais même pas au secours, mais qui réagit dans une émission de grande audience, c'est Jean-François Kahn, qui à l'époque a une émission sur France Inter et qui a l'idée malheureuse au final de faire réagir en direct les auditeurs. Et les propos des auditeurs sont
Oui,
repris.
surtout que techniquement, ce n'est pas les auditeurs qui s'expriment, c'est
C'est
Jean-François Kahn
Jean-François
qui
Kahn qui
lit
lit les
les textes
messages
et les messages des
en
auditeurs,
direct, sans filtre.
qui
Hein,
est,
donc,
voilà,
ouais. Et,
dont certains sont quand même d'une violence
c'est invraisemblable.
à peu près
Serge
inconcevable
Gainsbourg les a
aujourd'hui, d'ailleurs, je
conservés,
crois.
d'ailleurs. Ouais. C'est
Enfin, je pense qu'aujourd'hui, à peu près tous les propos antisémites qui sont retranscrits et lus à l'antenne
Ah ben.
sont condamnables et seraient condamnés très très rapidement, en fait.
Oui, enfin en même temps, on a
Enfin, en
l'impression
réalité,
d'être
pas
sur
tant que ça,
Twitter
mais c'est...
aujourd'hui, hein,
Oui,
franchement.
certes, oui.
Ils sont passibles, effectivement, de condamnation,
Oui.
mais on a l'impression que c'est nouveau, cette parole raciste libérée. Là, on voit très bien que non.
Et ce que je trouve aussi assez intéressant, enfin vraiment intéressant, c'est à quel point cet événement en fait autour de la Marseillaise, où Gainsbourg, a priori, vraiment n'a pas cherché à plus provoquer que ça. Enfin, il y a un côté provoque à prendre la Marseillaise et à en faire un hymne reggae, mais
Ce
je suis
qu'il
pas
faut, ce
sûr que
qu'il
ce
faut
soit
quand
vraiment
même,
une provoque la pire qu'il ait jamais faite, quoi.
dans le registre, en tout cas, Serge Gainsbourg sort de plusieurs échecs successifs. Des albums qui, ça paraît bizarre, hein, mais des albums aujourd'hui mythiques, l'histoire de Melody Nelson, L'homme à tête de chou, ce sont des bides monumentaux à cette période-là. Gainsbourg est certes un personnage notoire, mais plus grâce à ses interprètes qui, eux, font des succès. Lui, personnellement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Heureusement, il est marié à Jane Birkin, qui, elle, est la star qu'on voit partout, qui fait film sur film, émission de télé sur émission de télé. Mais entre l'histoire de Melody Nelson et La tête de chou, il a quand même publié un album qui s'appelle Rock Around the Bunker, où il raconte en parodie le Troisième Reich. Là, pour le coup, s'il y avait une provoque, elle était bien là. Quand il fait Nazi Rock, c'est des chansons autrement plus dérangeantes, autrement plus provocantes. D'autant que la Marseillaise, c'est une chanson qui a été traitée à toutes les sauces. C'est-à-dire que chaque événement politique, chaque révolution, chaque mouvement social adapte la Marseillaise. Il existe des dizaines et des dizaines de versions. Il y a des versions ouvrières, des versions féministes, des versions royalistes, des versions revanchardes. Là, pour le coup, ce qu'on lui reproche, entre guillemets, en plus d'avoir changé la musique pour mettre du reggae derrière, c'est d'avoir résumé le refrain à aux armes, etc. Et Gainsbourg se défend en disant: Non, 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 c'est pas une provocation de ma part, aux armes, etc. C'est écrit par Rouget de Lisle, qui avait la flemme de recopier 15 fois le refrain. Ce parole que tout le monde met en doute, ce qui fait que 2 ans plus tard, quand il apprend qu'un manuscrit de Rouget de Lisle, de la Marseillaise, va être mis en vente, il se précipite pour s'en porter acquéreur, pour montrer à tout le monde, comme un enfant qui veut montrer qu'il a raison, et que effectivement, sur le manuscrit. Alors, ça s'appelle pas la Marseillaise. Au départ, c'est
Le chant des Marseillais, ou enfin à l'époque même pas d'ailleurs.
le chant pour l'armée du Rhin. Ça devient la Marseillaise beaucoup plus tard. Effectivement, tout content de lui, il peut enfin montrer à tout le monde que Rouget. Alors, c'est pas tout à fait aux armes, etc. C'est aux armes citoyens, etc. Sur le manuscrit de Rouget de Lisle, qui est d'ailleurs reproduit. Celui qu'il a acquis est reproduit dans le livre.
Ouais, mais du coup, ce dont on se rend compte aussi, c'est que une partie du personnage de Gainsbourg qui a pris finalement la place de Gainsbourg au fur et à mesure à la fin de sa vie, ou en tout cas qui était médiatiquement plus présent que le Gainsbourg assez chic et raffiné des débuts, qu'on peut retrouver sur des images d'archives où il est très jeune et où il est plutôt un dandy raffiné que le barbu alcoolisé de fin de soirée qu'on a connu avec Whitney Houston sur certains plateaux, ou avec Catherine Deneuve qui lui enlève gentiment la main de son épaule quand il chante une chanson avec elle. En fait, c'est à ce moment-là aussi qu'il tombe dans ce travers et ça le détruit quand même enfin, ça
C'est-à-dire
le
que
marque
déjà,
profondément.
il vit un paradoxe. À la fois, c'est l'album pour lui du succès. C'est la première fois qu'il reçoit autant de récompenses, qu'il est célébré, il remonte sur scène. La jeunesse, à la fois dans l'histoire de la chanson française, remet Gainsbourg à sa place. On a du mal à le croire, mais c'est vrai que ça date de cette époque, les standards que sont aujourd'hui la chanson de Prévert, la javanaise, parce qu'on redécouvre 20 ans après ces chansons-là. C'était pas des grands succès au moment de leur création. Elles étaient connues, mais ce sont véritablement devenues des standards à partir du moment où Gainsbourg devient un artiste populaire, incontournable, et où on redécouvre son œuvre. Donc il vit ce succès absolument invraisemblable. Il a 50 ans et d'un seul coup, son public, c'est des gamins. Ce qu'il a toujours cherché à avoir dans toute sa vie, c'est son rêve finalement s'accomplit sur le tard. Et parallèlement, il est victime d'une cabale, d'une violence inouïe qui l'affecte profondément. Alors, On est d'accord que jusqu'à présent, même si c'était un dandy
Oui,
classieux, il
non,
n'avait
non,
pas
mais
une hygiène de vie géniale.
bien
Mais à partir de ce moment-là, ça dérape sévère. C'est-à-dire qu'il commence d'abord parce qu'il a du succès à sortir davantage, à être beaucoup plus sollicité. Et forcément, qui dit bah, sortir davantage, dit boire davantage. En plus, on est à une époque où il n'y a aucune loi, ni anti-tabac, ni anti-alcool. Donc, on en profite aisément. Sur les plateaux de télé, effectivement, on a un personnage qui commence à apparaître, qui, au final, est une idée assez ingénieuse. Parce que tous ces chanteurs nés à la fin des années 20, comme Gilbert Bécaud, comme Claude Nougaro, sont très mal à l'aise avec la télévision. C'est pas leur média, ils n'ont pas grandi avec ça, ils ont grandi avec la radio. Et on le voit sur les interviews d'artistes de cette génération, l'exercice télévisuel les valorise pas. Gainsbourg a toujours su jouer des médias, même s'il faut tendre l'oreille et décrypter pour comprendre ce qu'il dit. Mais à partir du moment où cette espèce de personnage complètement irrévérencieux s'impose sur les plateaux de télé, ça devient un phénomène de société. Le lendemain, tout le monde en parle. Donc il a trouvé finalement une idée géniale où sa névrose devient un outil de communication incroyable. Et il dame le pion à tous les mecs de son âge.
Oui.
C'est le seul à pouvoir revendiquer de faire des apparitions télévisées dont toute la France parle le lendemain.
Oui, puis en plus, je pense que ça le protège aussi parce qu'il se crée ce personnage qui, lui, peut être attaqué. Mais
Alors,
derrière, il y a Gainsbourg qui est
il se
protégé derrière le
crée,
personnage aussi,
oui, enfin, il
pendant un
se crée
temps au
ce
moins.
personnage, mais hélas, ça déborde dans sa
Oui,
vraie
c'est
vie.
ça.
C'est-à-dire que parfois, il oublie de le ranger et il devient quand même Gainsbourg dans sa vraie vie.
Oui.
C'est l'époque de sa rupture avec Jen parce que
Tout à fait.
la vie de famille est plus possible. Il devient vraiment violent, il commence vraiment à ne plus pouvoir se contrôler. Donc, ce qui fait que ça provoque chez Gainsbourg à la fois une renommée, une popularité invraisemblable, et en même temps, ça le détruit complètement en tant qu'être humain. Et plus sa vie privée est un ravage, plus Gainsbourg triomphe. Et d'ailleurs, l'album suivant, qui est un album reggae où il va rendre des comptes à tout le monde, est véritablement l'acte de naissance de Gainsbourg. Il y a une chanson qui s'appelle Ecce Homo, où c'est qui commence par « Eh oui, c'est moi Gainsbourg, on me retrouve au détour des bars ». Et à partir de là, ça devient les 10 dernières années de la vie de Gainsbourg deviennent finalement tournent autour de Gainsbourg.
Et en même temps, ce qui est étonnant, c'est autour de lui et de sa production artistique pour lui, il y a ça, mais ça n'empêche pas d'écrire pour Jane des chansons sublimes qui sont pas celles du tout que Gainsbourg s'approprie pour lui, en fait. Parce que Baby Alone in Babylon ou Les
Bah,
Deux Sous Chics, c'est quand même
c'est
sommé
ce qu'on dit
raffinement.
toujours, hein. C'est-à-dire que le bonheur génère pas forcément des œuvres géniales. Donc plus il souffre, plus il est génial. Et effectivement, en 83, ça fait 4 ans qu'il est séparé de Jen, il lui offre le plus bel album qu'il lui ait jamais écrit, avec les chefs-d'œuvre que vous venez de citer. Et en plus, c'est véritablement le moment où Jane Birkin s'assume en tant qu'artiste. Jusqu'à présent, elle chantait essentiellement en studio et sur les plateaux télé en playback. C'était pas véritablement une chanteuse. Elle avait eu un succès mondial avec Je t'aime moi non plus, un gros succès avec Ex-Fan des 60s. Mais jamais elle était tout à fait consciente de ne pas avoir les compétences d'une interprète. À partir de leur rupture, à partir de cet album Babylon in Babylon, elle se revendique artiste, interprète. C'est là où elle arrête d'ailleurs, même au cinéma, les comédies légères pour aller vers des films d'auteur. Elle commence à faire du théâtre, elle monte sur scène pour chanter Gainsbourg et elle entre elle-même dans une démarche où elle remet aussi Gainsbourg à la place qui doit être, en prenant finalement la place, elle, qu'elle n'a jamais prise jusqu'alors.
Oui, et puis c'est aussi la période où il écrit pour Adjani, pour Deneuve, enfin.
Ah oui, c'est très
C'est quand même
prolifique pour
c'est très
Chamfort, pour
prolifique pour Chamfort,
Bachung, pour...
Bachung,
Ah
ouais,
oui, c'est
pour
invraisemblable.
Régine aussi, je pense. Je sais pas si
C'était
c'était
un peu
un peu
avant.
Régine, c'était un peu avant. Mais c'est vrai que comme parolier, voilà, il a toujours cette abondance de production, de toute façon, qui s'arrête jamais. Et lui est en même temps en train de se détruire et se remet jamais vraiment de toute cette attaque de Michel Droit et de cette
Non, non,
cabale qui est
non,
lancée.
c'est. Gainsbourg va finir par.
C'est.
Gainsbourg va finir par avoir sa peau.
Ouais.
C'est un. Non, il s'en remet pas. Et surtout qu'en plus, à partir du moment où il acquiert le manuscrit de Rouget de Lisle, donc on est 2 ans plus tard, il s'en reprend une salve de la part de Dominique Jamais. L'histoire ne s'arrête plus. Il a beau faire. Alors après, ça devient un peu provocant quand, avec. C'est la dernière photo du livre, quand avec
Oui.
William Klein, il fait une affiche pour le 14 juillet,
Et vous, donc
en
voilà,
travesti,
en
avec Serge
travesti, voilà.
Gainsbourg, respecte les traditions. Monsieur Gainsbourg, je crois.
Monsieur Gainsbourg, et d'ailleurs la photo aussi de la couverture qui est lui posant à moitié,
Pour Jean-Jacques
je pense
Bernier.
qu'il il a un pantalon, mais caché derrière le drapeau. Enfin voilà, c'est quand même à ce moment-là, je pense, de la vraie provoque aussi, qu'il en joue quand même à ce moment-là de cette provoque malgré tout, mais.
Moi j'ai toujours un doute là-dessus. C'est-à-dire que à la fois il en joue et à la fois c'est véritablement un patriote. Quand on interroge, enfin quand on interrogeait à l'époque dans son quartier, que ce soit les pompiers, les flics, il a une collection d'insignes militaires. Tout le monde l'aimait. Et quand il est invité par François Mitterrand à la Garden Party à l'Élysée, Charlotte Gainsbourg m'a raconté que c'était un enfant. D'un seul coup, il s'est bien habillé. C'était oui, monsieur le président. Il était là devant tous les militaires à faire le salut. C'est un enfant émerveillé dans la cour de la République. Et il est hors de question qu'il fasse la moindre provoque ce jour-là.
Oui, bien sûr.
Donc, c'est un malentendu, très honnêtement. C'est une accusation qui a été trop loin, et c'est des années de cabale vraiment malveillante pour quelqu'un qui fait que son métier. Un créateur, c'est un provocateur, par définition.
Donc peut-être pour terminer, après avoir écrit ce livre et après les attentats du début du mois de novembre et l'appropriation de la Marseillaise par à peu près tout ce que la France compte d'habitants, je crois,
Et le
et le
monde.
monde d'ailleurs, et du drapeau français, de tout ça, je trouve qu'il y a une résonance qui est assez enfin vraiment stupéfiante entre ce livre et Gainsbourg qui se l'approprie, qui la revisite, qui se fait totalement attaquer, et aujourd'hui où à peu près toute la classe politique et tout le monde est ravi que tout le monde à nouveau s'approprie la Marseillaise.
Ben, faut dire une chose, c'est que quand même, ça a
Je
été la
pense que.
première fois dans l'histoire de la Marseillaise qu'elle est passée en radio.
Ça.
Donc, ça s'est jamais reproduit depuis, c'était jamais arrivé avant. Pour la première fois, il y a des auditeurs, des téléspectateurs qui avaient à loisir l'opportunité d'écouter en
Ouais.
partie, hein,
Tous les
parce que
couplets en
vraiment,
plus.
non, non, il n'y a pas tous les couplets du tout. Non, non.
Il y en a 15 en tout, c'est ça?
Ouais. La version Gainsbourg, je crois qu'il en
Ouais,
a
je
gardé
crois.
3 sur les 15. Mais cet hymne qui résonne dans le monde entier depuis le 13 novembre et qu'on a pu enfin entendre à nouveau. Enfin, c'est toujours pareil, on entend le premier couplet, le premier refrain, hein, ça va généralement pas beaucoup plus loin. Mais effectivement, il n'y avait pas eu une telle propagation de l'hymne national depuis aux armées, etc. Ben merci en tout cas d'être venu, ça m'a fait plaisir.
À
À
nous
vous,
aussi.
tiens.
Merci Laurent.